Luc chapitre 22, versets 31 et 32. Luc 22, 31 et 32. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas, et quand tu seras revenu, affermis tes frères. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. On va prier. Seigneur éternel, nous voulons te bénir et te remercier pour tout ce que tu fais pour nous, pour ta grâce et pour ta bonté. Nous avons entendu quelles sont les grandes œuvres du diable, combien il est un tentateur puissant, mais combien tu as déjà acquis la victoire à ta croix et combien il ne peut rien faire sans ton autorisation, sans ta souveraineté absolue. Tu es celui qui dirige toutes choses, Seigneur, depuis le début jusqu'à la fin de ces choses-là. Tu nous épates simplement par ta toute puissance et nous voulons te remercier et te bénir pour tout ce que tu fais, Seigneur. Te glorifier pour ton œuvre que tu as manifestée en Jésus-Christ à la croix. Te glorifier parce que rien ne peut nous arriver en dehors de ta souveraine et suprême volonté. Et maintenant, nous voulons voir comment tu procèdes, Seigneur. Nous voulons apprendre quelle est cette grande barrière que tu mets entre nous et Satan, cette protection que tu établis en Jésus-Christ. Nous voulons revenir de ta victoire, Seigneur. Nous voulons, nous aussi, laver nos robes dans le sang de l'agneau. Nous voulons maintenant être devant toi, Seigneur, pour être au bénéfice de ta protection, pour la comprendre, afin de mieux t'adorer. Et révèle-nous ton œuvre, Seigneur, afin que nous te connaissions mieux. Parle à notre cœur et dirige-nous ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Je crois que, par-dessus tout, le but de ce week-end est que nous ne nous trompions point d'ennemis. Et quand les circonstances deviennent difficiles, on peut avoir tendance à se rebeller contre Dieu. On peut parfois avoir le sentiment que Dieu est dur avec nous. Par exemple, quand il reprend Pierre à la sortie de la barque, il lui dit « Mais homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» C'est dur comme parole. La réalité, c'est que le mobile des actions de Dieu pour ses enfants, c'est sa bonté. Dieu est bon quand il parle durement à Pierre. Dieu est bon quand il nous fait passer par des circonstances difficiles. Jésus est bon quand il est dur dans ses paroles et dans ses circonstances. Et il est tout aussi bon lorsqu'il prie pour Pierre ici. L'œuvre de Satan, elle est complètement à l'opposé de celle de Christ. Il rôde autour des croyants, il rôde autour de nous pour chercher à nous séduire. Et il cherche à nous faire déchoir de notre position en Christ comme nous l'avons vu ce matin. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Tu es en danger, est en train de dire Jésus à l'apôtre Pierre. Tu es en danger, ton adversaire est méchant, il rôde autour de toi, il est puissant et tu vas très certainement te faire dévorer par lui. Mais n'aie pas peur, parce que j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Regardons à cette prière et ce que cette prière de notre Seigneur peut nous apprendre. Premièrement, que la foi est l'objectif ultime de Satan. Et deuxièmement, que notre foi est bien petite et qu'elle est proche de défaillir. Et enfin, troisièmement, le grand moyen de défense de notre foi, à savoir la prière de Christ. Premièrement donc, l'objectif de Satan est d'atteindre notre foi. L'objectif de Satan est d'atteindre notre foi. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du paintball. C'est un sport qui paraît assez ludique comme ça, mais quand vous l'avez pratiqué pendant une après-midi, vous revenez avec pas mal de bleu. Le paintball, c'est un sport où on vous donne un pistolet avec des billes de peinture. Généralement, on fait deux équipes et c'est parti, il faut tuer tout le monde. C'est une des missions qu'on peut vous proposer, tuer avec des billes de peinture, hein, je précise. Mais également, vous avez parfois des missions un peu plus élaborées et moins basiques que de tirer sur tout ce qui bouge. Vous avez par exemple des missions qu'on appelle les missions du drapeau. Et dans ces cas-là, l'équipe bleue se bat contre l'équipe rouge, par exemple, et le but, c'est d'aller chercher le drapeau dans le camp de l'ennemi, ce qui nécessite un certain nombre de stratégies pour ce faire. Vous voyez, dans un certain sens, quand vous jouez de cette manière-là, le drapeau, c'est l'objectif suprême de la bataille pour laquelle vous vous battez. Si vous avez vu le film « Il faut sauver le soldat Ryan », vous avez 5 à 6 hommes, je crois, qui partent pour aller chercher un soldat qui était perdu dans les camps et derrière les lignes ennemies. Leur objectif, ce n'était pas de tirer sur tout ce qui bouge. Leur objectif, c'était d'aller chercher le soldat Ryan, de qui tous les frères et sœurs étaient morts. Et il était le seul survivant de sa famille et il avait été ramené au milieu des siens. De la même manière, lorsque vous lorsque vous jouez aux échecs, l'objectif n'est pas tellement d'aller manger tous les pions, mais plutôt de bloquer le roi pour qu'il ne puisse plus avancer. On appelle ça échec et mat. Et chers amis, le morceau de choix, l'ultime objectif des attaques de Satan, c'est la mise en échec de notre foi. Et il est prêt à venir chercher ce drapeau jusque dans la citadelle de notre cœur. Pourquoi est-ce que Satan, il a cet objectif ultime de détruire notre foi? Pourquoi est-ce que la foi, c'est si important pour lui? Quelques réflexions là-dessus. Premièrement, parce qu'elle constitue le point de connexion entre Christ et nous. Je veux dire, imaginez un torrent infranchissable qui est en train de descendre dans la vallée. Vous avancez devant ce torrent, vous voyez le débit des flots, vous vous dites, mais comment je vais passer de l'autre côté? Mais quel miracle! Voici un pont. Ne vous étonnez pas dès lors que les ponts soient un objectif stratégique lorsque la guerre éclate. Vous détruisez un pont, vous détruisez une voie de communication et vous avez des rivières naturelles qui deviennent infranchissables pour les blindés ou pour les troupes parce que ce point de passage est détruit. Et je veux dire, la foi, c'est le pont qui nous permet d'accéder en temps réel à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Coupez ce pont et le torrent devient infranchissable, l'accès à Dieu est détruit. Satan, il le sait, ça. S'il parvient à vous couper de votre foi, vous êtes sûr de ne plus pouvoir accéder à Dieu. Et il le sait très bien. Et ce point de connexion, il cherche à le détruire. Il cherche à le boucher. Elle est également le moyen par lequel Dieu justifie le pécheur. Il est écrit dans l'Évangile, dans l'Épître aux Romains, pardon, chapitre 1, verset 17, « Mon juste, le juste, vivra par la foi. » Parole qui est écrite dès l'Ancien Testament, car on est justifié par la foi dès l'Ancien Testament, par la foi en Jésus-Christ. En Habacuc 2, verset 4. Elle est l'enjeu de la justice de Dieu, elle est le point d'accès à cette justice. Finalement, elle est au cœur de l'Évangile, parce que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Elle est l'accès à la vie éternelle pour le chrétien. Elle est le point vital de son existence. Vous êtes sauvés par grâce. Formidable d'être sauvé par grâce, mais vous êtes sauvé par grâce par le moyen de la foi. Sauvé par grâce par le moyen de la foi. Et si seulement Satan parvient à détruire votre foi, il détruit votre vie tout entière. Tout ce que vous avez construit et basé sur Christ part complètement en fumée parce qu'il aura détruit le seul fondement de votre vie. Elle est également le seul moyen de plaire à Dieu. Elle est le seul moyen de plaire à Dieu. Et il est écrit dans Hébreux 11, verset 6, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça veut dire, si Satan parvient à ne serait-ce qu'un tant soit peu amoindrir votre foi et la ternir en quelque sorte, comme les vieux cuivres qui traînent dans le vaisselier de votre grand-mère, alors à ce moment-là, vous cesserez de plaire à Dieu et vous cesserez d'avoir ce libre accès au trône de la grâce et vous vivrez dans la culpabilité. Votre foi ne sera plus là, vous n'aurez plus de point d'accès, c'est terminé, vous ne serez plus agréable à Dieu, plus agréé par lui, vos prières cesseront de monter jusqu'à lui, c'est terminé. Satan le sait. En quelque sorte, cette foi, elle est la première de toutes les grâces. Elle est le premier fruit de la régénération. Comme je n'arrête pas de vous le dire, finalement, la foi n'est pas la cause de la régénération, elle en est la preuve, elle en est l'évidence. Et les bourgeons du printemps annoncent les fruits à venir, vous voyez. Quand vous avez quelque chose qui bourgeonne, en quelque sorte, ça veut dire que vous allez avoir une belle fleur. Enfin, ça dépend des arbres que vous regardez. Je ne sais pas ouais, sur quoi vous fixez vos regards. Moi, au bois de Vincennes, à côté de chez moi, il n'y a que des chênes. Alors, en fait, tout ce qui pousse, c'est des glands. Ce n'est pas très agréable à regarder. Mais quand vous avez des bourgeons qui sortent sur les arbres, vous pouvez vous attendre à avoir une belle fleur. Tout le monde n'habite pas à Montreuil-sous-Bois, après tout. En quelque sorte, la foi, c'est un peu ce bourgeon qui préfigure les magnifiques fruits qui vont venir. Mais regardez par exemple là où je veux en venir. L'amour est plus grand que même l'espérance ou la foi. D'ailleurs, si vous aviez été au dernier Pulse, vous auriez entendu parler de ça en long, en large et en travers. Mais si la foi ne vient pas premièrement, jamais vous n'expérimenterez plus que le raisonnement d'un airain ou une cymbale ou de ce que vous voulez, vous ne serez rien si vous n'avez pas la foi. Parce que si vous n'avez pas la foi, vous n'êtes même pas passé par la première de toutes les grâces qui est le fruit de la régénération. Et tout amour que vous pourriez connaître n'a rien à voir avec l'amour dont parlent les Écritures. Cet amour qui se donne, cet amour qui donne sa vie, cet amour qui fait passer l'autre en premier. Je relisais une citation que j'ai postée il n'y a pas longtemps là, sur Facebook. J'ai juste été impressionné par cette citation. C'est Amikar Michael qui dit ça. Elle dit si j'aime être aimé plus que j'aime aimer, alors je n'ai rien compris de l'amour qui a eu lieu au calvaire. Mieux, la foi, c'est le réservoir de toutes les grâces. Ce n'est pas seulement la première de toutes les grâces, c'est le réservoir dans lequel toutes les autres grâces viennent puiser. Et le système d'approvisionnement des véhicules, la réserve de carburant, toutes ces choses-là, c'est le nerf de la guerre. Quand vous menez une guerre, vous êtes complètement perdu si vous n'arrivez pas à les alimenter en carburant. Vous savez, les Russes sont des gens très intelligents. Les Russes, généralement, ont toujours supporté les attaques des pays ennemis depuis de longs siècles, depuis même le Moyen-Âge. Ils ont une technique hors pair. Napoléon s'y est cassé les dents, Adolf Hitler aussi. Chaque fois que vous attaquez la Russie, ils se retirent progressivement sans trop résister et ils laissent l'hiver vous envelopper. Généralement, vous arrivez jusqu'à Moscou comme ça. Napoléon n'était pas loin et il a perdu à la bataille de la Bérézina. Vous avez jamais entendu l'expression, c'est la Bérézina, une débandade totale. Hitler, quant à lui, s'est cassé les dents sur Stalingrad. Vous savez ce qui s'est passé pour Hitler quand il est arrivé avec ses armées? Ils sont arrivés sur place. Le froid les a enveloppés, un tel froid que les Allemands ne pouvaient même plus survivre. Les manteaux qu'ils avaient n'étaient pas adaptés pour de telles températures. Et le carburant gelait dans les réservoirs. Ils ne pouvaient tout simplement plus avancer. Ils se sont enlisés à Stalingrad. C'est devenu une guérilla urbaine qui a été immortalisée par un film qui s'appelle Stalingrad, justement. Et cette guérilla urbaine s'est terminée en guerre de snipers et en guerre de rue, comme on en voit aujourd'hui dans certains endroits au Moyen-Orient. Et finalement, ils se sont complètement enlisés. Ils ne pouvaient même plus être ravitaillés. Ils n'avaient plus de carburant, ils n'avaient plus rien. Et les Russes ont repoussé les Allemands de cette manière-là. Et Satan sait que s'il vous coupe l'accès à la foi, il vous coupe littéralement l'accès à un réservoir de carburant pour toutes les autres grâces. Quel sera votre amour si vous n'avez pas la foi? Quel sera votre service si vous le faites sans croire en celui qui vous y a envoyé? Rien du tout. Satan sait ça. Et il cherche littéralement à couper l'accès à toute forme de réservoir, à toute forme de carburant pour votre service. Elle est en quelque sorte, la foi, l'ultime rempart contre les attaques maléfiques de Satan. La foi est l'ultime rempart contre les attaques maléfiques de Satan. Le bouclier de la foi, finalement, c'est celui qui permet d'éteindre tous les traits enflammés du malin quand vous regardez cette armure complète de Dieu qui se trouve dans Éphésiens 6. Et Akab a été frappé par une flèche qui a été tirée par hasard, nous dit le texte, au défaut de sa cuirasse. Mais à combien plus forte raison aurez-vous besoin d'une armure sans défaut lorsque les traits enflammés du malin tout entier viendront s'abattre sur vous avec une précision sans faille, parce qu'il sait exactement comment vous tenter pour que cela soit efficace. Il connaît le sol pierreux de votre cœur dans lequel la graine de sa tentation portera nécessairement du fruit. Si Satan triomphe de notre foi, plus rien ne lui barre l'accès à notre cœur et rien ne l'empêcherait alors de revenir contrôler notre vie 7 fois plus fortement qu'auparavant et de rendre notre condition pire et misérable telle qu'elle ne l'avait jamais été avant même notre conversion. Toutes les attaques du diable ne consistent pas à nous faire commettre tel ou tel péché, mais à nous faire déchoir de cette position que nous avons en Jésus-Christ, que nous avons accédé par le moyen de la foi. Oh, combien donc notre foi est précieuse? Et combien donc notre foi est en danger lorsque nous avons un tel adversaire qui rôde autour de nous et qui attaque spécifiquement ce point d'accès-là? On parlait ce matin dans l'atelier, cet après-midi, pardon, on parlait de ces coups de boutoir qui mettent toujours au même endroit. Comme pour couper un arbre, vous frappez toujours à la même place. Mais dans un certain sens, son but n'est pas tellement de faire une plaie. Son but est que l'arbre tombe. Et cet arbre, c'est votre foi. Voulez-vous la préserver? Oh, chers amis, quel grand combat à mener. Qui résistera à un tentateur comme celui-là? L'objectif de Satan est d'atteindre notre foi. Et la deuxième chose que j'aimerais soulever ce soir, c'est que notre foi, elle est en grand danger de défaillir. Regardez bien ce que dit notre texte sur le danger que notre foi encourt. Afin que ta foi ne défaille pas, nous dit notre texte. Satan attaque notre foi et il est bien plus fort que nous, de sorte qu'il pourrait bien mettre fin à notre vie chrétienne à l'instant. C'est tout à fait possible. Ça ne lui poserait aucun problème. Si vous avez déjà compressé une bouteille en refermant le bouchon après pour qu'elle ne prenne pas trop de place dans votre poubelle, Satan pourrait faire exactement la même chose avec votre foi et votre âme tout entière. Il en a largement le pouvoir. Et nous sommes en marche vers le ciel. Nous marchons par la foi et non par la vue. Mais si Satan parvient à détruire notre foi, c'est fini notre marche. C'est fini notre mouvement jusqu'avec lui. Il stoppera notre marche. Jamais nous n'arriverons à bon port. Et ce n'est pas sans gravité que la parole de Dieu dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Et si dans votre passé de chrétien, vous avez entendu des prédications qui vous disaient du style « Décidez-vous pour Christ, quoi que tu fasses après, tu es sauvé », laissez-moi vous dire une chose, on vous a menti. Seul celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce n'est pas une petite chose que ce verset de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas espérer être sauvé si vous ne persévérez pas jusqu'à la fin dans la foi. Satan veut mettre un coup d'arrêt à votre foi, il veut vous empêcher de persévérer jusqu'à la fin. Il veut vous saper, il veut vous casser les genoux de votre marche chrétienne qui consiste à mettre un pied devant l'autre par la puissance que donne la foi. Et s'il y arrive, c'est mort. C'est mort. Or, votre foi, chers amis, à l'état naturel, si elle était réellement naturelle, elle serait en grand danger de défaillir. Dans son état naturel, l'homme ne dispose pas de grandes aptitudes à la persévérance. Adam, par exemple, avait été placé dans le jardin et Dieu était rentré en alliance avec lui dès la création du monde. Et les termes et les conditions de cette alliance, comme on l'étudie le jeudi soir, un jeudi sur deux à Montreuil, ils sont clairement exprimés. Il fallait qu'il cultive le jardin, il fallait qu'il se multiplie, il fallait qu'il obéisse à la loi qui était dans son cœur, il fallait qu'il obéisse à ce commandement spécifique que Dieu lui avait donné et qu'il glorifie Dieu par son attitude. Il devait garder ce commandement-là. Et Adam a été créé parfait dans le jardin. Il était parfait dans ses décisions et dans sa capacité à tenir ses décisions. Il était parfaitement capable de pécher comme il était parfaitement capable de ne pas pécher. Dieu lui avait donné tout ce qui était nécessaire à ce qu'il soit parfaitement libre, qu'il prenne des décisions de son propre chef et qu'il soit à la fois capable de pécher, capable de ne pas pécher. Et en plus de cela, Dieu l'avait averti et lui avait dit « Ne mange pas de ce fruit, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Donc il a tout reçu, il est capable de pécher, capable de ne pas pécher, et en même temps, Dieu l'a averti en lui disant « Fais gaffe à cet arbre, le jour où tu en manges, tu meurs. » Le point, c'est que Dieu avait certainement équipé Adam pour qu'il puisse accomplir ce pourquoi il avait été créé, mais il l'avait laissé avec un élément. Et en théologie, on appelle ça sa mutabilité. C'est-à-dire que Adam était capable de changement. Il était capable de choisir le bien, comme il était capable de ne pas rester dans le bien et de passer vers le mal. Il était capable de manger de cet arbre. Dieu l'avait laissé avec cette capacité-là, lui laissant une totale liberté. Et vous connaissez la suite. Adam a chuté parce que Satan est venu tenter sa femme. Et lui était juste à côté. Ça ne l'a pas empêché d'accuser sa femme en disant « c'est la femme ». Mais il était là. Il était à côté de la femme. Et il a croqué dans le fruit. Et il a croqué jusqu'au trognon. Il a même bouffé les pépins jusqu'à ce que Dieu vienne. Alors qu'ils étaient nus dans le jardin. Ils s'étaient couverts de feuilles de vigne. Et il lui a dit « Où es-tu ? » ?»« Je me suis caché parce que je sais que j'ai mal fait. » Mais tu savais avant que tu avais mal fait. On a tous chuté. Mais était-on capable à l'état naturel de persévérer ? Notre premier père n'a pas tenu son engagement. Il n'a pas persévéré dans le commandement qui lui avait été donné. Mais est-ce que vous pensez que nous, qui sommes impactés par la chute d'Adam, pour qui le péché est imputé, nous naissons avec cela, nous sommes naturellement mauvais dès notre naissance, dès le ventre de notre mère, est-ce que vous pensez qu'on aura plus de persévérance le jour où Satan viendra nous tenter ? Lui, il était équipé de toutes sortes de grâces pour tenir ferme, mais nous ? Mais c'est fini, la présence de Dieu s'en est allée, on est séparés de Dieu, on est ennemis de Dieu. Nous avons pour père le diable tant que nous ne sommes pas en Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on pourra persévérer là où Adam n'a pas persévéré ? L'entrée dans l'alliance de grâce se fait par le moyen de la foi et nous restons dans cette alliance de grâce tant que nous gardons la foi. C'est exactement ce que Satan veut venir entraver. De même qu'il a été attaqué Adam sur les conditions de son alliance, à savoir faire des œuvres d'obéissance, il nous attaque sur la condition de notre alliance à nous, à savoir avoir la foi et avoir la foi jusqu'à la fin. Que se passera-t-il le jour où Satan va venir nous tourner autour, s'il ne l'a pas encore déjà fait chez vous, et qu'il cherchera à saper les fondements de votre foi? Pensez-vous que vous trouverez en vous-même la moindre capacité à persévérer dans cette foi? J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. À l'état naturel, nous n'avons pas plus de persévérance qu'Adam n'en avait. Et notre faible foi est prête à défaillir sous le crible du diable, de l'ennemi de nos âmes. Sans l'intercession de Christ, notre persévérance ne vaudrait rien. Et Pierre, il était en grand danger parce que Satan l'avait réclamé lui spécifiquement pour le placer au crible de ses attaques infernales. Mais voici la parole de Christ. « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. » Ce qui nous conduit naturellement à notre troisième point ce soir, qui est le grand moyen de défense de notre foi, la grande ligne que Christ trace pour défendre ce faible butin que nous avons et qui nous permet d'accéder directement à Dieu. La prière de Christ constitue la ligne de défense du croyant. Et notre foi, elle est prête à défaillir, et rien en nous ne peut la préserver. Et voici que l'homme parfait, Jésus-Christ, qui a parfaitement obéi là où Adam avait parfaitement désobéi, il vient lui-même, il vient prier pour nous. Et c'est ça le grand moyen de défense de notre foi, la prière de Christ. Et chers amis, la prière, c'est une grande et belle chose. D'ailleurs, rendez-vous demain matin à 7h30 pour la prière des Warriors. Vous avez deux options demain, vous savez, soit vous faites la prière des Warriors à 7h30, soit vous faites les Warriors de l'oreiller. Ça, c'est de 7h30 à 9h30. Mais la prière est une grande et belle chose. Venez prier avec nous demain. Vous allez voir, c'est super de prier ensemble. Mais cette prière-là, elle fait toute la différence. Vous savez ce qui fait toute la différence? Une simple lettre. Un J apostrophe. « J'ai prié pour toi, dit Christ. » C'est l'intercession de Christ qui préserve notre foi. Nos prières n'ont en elles-mêmes aucune puissance. Celle de Christ a un pouvoir absolu. Dans nos prières, chers amis, nous devrions chercher la personne de Christ. Nous devrions chercher l'intercession de Christ. Sollicitez d'eux, plaidez votre cause devant lui, présentez vos prières par Jésus-Christ devant Dieu, parce que le Père l'exauce toujours. Le Père m'exauce toujours, dit Jésus quand il vient ressusciter Lazare. Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais à cause de la foule qui est autour de moi, Lazare sort. Regardez plus en détail cette prière de Christ et notez avec moi. Premièrement, cette prière de Christ, elle est triomphante. Il est impossible que la prière de Christ n'atteigne pas son but, car comme nous l'avons dit, Jean 11, 42, le Père l'exauce toujours. Quand Christ prie, Dieu parle. Christ prie, c'est Dieu qui parle. Et quand Dieu parle, ça a valeur de fait. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Essayez de comprendre que la prière de Christ n'est ni plus ni moins qu'un décret de Dieu. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Elle ne défaillera pas. Qui peut infliger une défaite à l'omnipotence? Personne. Elle est préventive. Deuxièmement, Pierre n'a pas renié que Jésus a déjà prié pour lui. Laissez-moi vous poser une question. Quand Jésus a-t-il prié pour Pierre? Était-ce 10 minutes avant? Était-ce quand il est arrivé sur la terre, quand il était bébé? Était-ce quand il avait 12 ans et qu'il était en train de discuter avec les responsables religieux dans le temple? Était-ce alors qu'il était en train de les chasser avec un fouet? Était-ce le jour où ils se sont vus tous les deux à part pour leur one-to-one? Ou est-ce de toute éternité, lorsque le Père a remis au Fils ce qu'il lui avait donné? Christ a prié de toute éternité pour Pierre, pour le préserver d'une chute dans la ligne de temps. Éternellement hors du temps, Christ a prié pour prévenir de cette chute que Dieu a vue de toute éternité. Il l'a vue. Elle est préventive et elle est éternellement préventive, cette prière. Elle est précise, troisièmement. Remarquez que notre Seigneur ne se contente pas de généralités. Par exemple, mon ami Alain qui se trouve ici, si je sais qu'il ne va pas bien, je vais dire « Seigneur, je te prie pour Alain, fais-lui du bien. » Prière générale et en plus ça rime. « Je te prie pour Alain, fais-lui du bien. » Tu vois. Sauf que Christ, il ne prie pas comme ça. Il a prié d'une manière très spécifique. Je te prie pour lui afin que ta foi ne défaille pas. Notez la précision et la détermination de Jésus pour Pierre et regardez comme Jésus place précisément sa prière pour ceux qu'il aime. Rien à voir avec nos prières évasives qui accompagnent nos faiblesses et qui bien souvent sont notre lot quotidien. Regardez cette précision. Je te prie pour mon frère, pour sa situation spécifique qu'il vit. Je te prie pour lui, pour son temps avec son cœur personnel. Je te prie pour son bien-être. Je te prie pour sa vie avec toi. Je te prie pour son travail. Je te prie pour son épouse qui ne va pas bien. Je te prie pour ses parents qui ne sont pas chrétiens. Je te prie pour sa santé qui défaille et qui déraille. Mais certainement pas, je te prie pour lui pour qu'il aille bien. Quelle spécificité dans les prières de Christ! Elle est d'autant plus précise qu'il connaît jusqu'au moindre fondement de notre cœur et qu'il sait exactement ce dont nous avons besoin. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Je ne peux pas connaître le tien, tu ne peux pas connaître le mien, je ne peux même pas connaître mon propre cœur. Mais lui, il le sonde. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. La parole, elle n'est pas déjà sur ma bouche que déjà tu la connais, Seigneur. Oui, je parle et je crie devant toi. Oui, je m'agite, mais à quoi ça sert que je me lève le matin? À quoi ça sert que je me couche tard? Il en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Oh, tu me connais, Seigneur, et tu pries pour moi spécifiquement de toute éternité. Quel privilège de savoir que cette prière, c'est la prière de Christ pour ses enfants. Elle est pertinente, quatrièmement. Satan a demandé à cribler Pierre d'une manière spécifique. Jésus priera spécifiquement. Satan ne peut pas aller au-delà des limites que le Tout-Puissant lui a fixées avant midi ce matin. Mais il dit à Satan, frappe Job, mais ne touche pas à sa vie. Crible Pierre, mais ne touche pas à sa foi. Jamais ça ne dépassera d'un iota ce que le décret éternel de Dieu aura fixé. Et si Christ prie pour vous, alors Christ vous a réellement protégé, car Dieu parle. Notre Seigneur, chers amis, est une ligne de défense absolue. Les Français avaient établi au moment de l'invasion allemande une ligne qu'on appelle la ligne Maginot. Elle était réputée infranchissable. Vous pouvez aller la visiter aujourd'hui, c'est assez instructif. Cette ligne s'étendait sur tout le front Est, et dans des endroits réputés infranchissables, comme par exemple la forêt des Ardennes, on n'avait pas construit cette ligne. Figurez-vous que c'est précisément par la forêt des Ardennes que les Allemands sont passés. Et notre ligne Maginot avait ses points de faiblesse. Même après que la forêt des Ardennes ait été franchie, les lignes allemandes ont réussi à passer la ligne Maginot. Mais la ligne de Christ est parfaitement fortifiée en tout point. Il est présent partout, sur toute cette ligne. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi, dit l'Éternel. Ces fortifications sont plus dures que le diamant. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Vous ne connaissez rien qui soit aussi solide que son salut. Même la plus dure des plus dures pierres, même le métal dont on se sert pour trancher les choses les plus dures, ne saurait être comparé au salut qui nous sert de muraille. Tu es mon rocher et ma forteresse. Dieu lui-même est le matériau qui constitue cette muraille. Psaume 31, verset 4. Que Satan plaide contre nous, chers amis. Jésus se tiendra devant nous. Pas un ange, pas un homme, pas un simple homme. Jésus-Christ lui-même, Dieu éternel, le Tout-Puissant qui vient devant nous protéger. Et c'est ce qu'il promet de faire à Pierre. Maintenant, en lui disant « J'ai prié pour toi ». Afin que ta foi ne défaille pas. Quelle est cette promesse que Jésus a accordée à l'apôtre? Quelle est cette promesse extraordinaire? Il est temps pour moi de conclure, et j'aimerais encore dire quelques mots sur cette prière en conclusion. La prière de Christ est une prière particulière. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé, et ça a été le cas. Pierre a été tenté, et il a renié notre Seigneur publiquement. Et il l'a déjà renié 3 fois, en plus avec serment, avec imprécation, il a juré. Et à ce moment-là, Jésus a regardé Pierre, et il est écrit, et Pierre sortit et pleura amèrement. Mais ce n'est pas la seule histoire de trahison dans l'Évangile. Parce qu'il y a une deuxième histoire de trahison. Cette deuxième histoire de trahison, c'est celle de Judas. Et lorsque le moment est venu pour lui de trahir Jésus, Jésus ne s'est pas contenté simplement de regarder Judas, mais il a trempé le morceau avec lui. Il lui a même fait un bisou. Mais vous ne trouverez nulle part la moindre trace de quelque prière que ce soit de Jésus pour Judas. Pierre, comme Judas, a été éprouvé avec un profond remords à l'idée d'avoir trahi Christ. Mais voilà, Judas, il est parti se confesser à des prêtres. Et après s'être confessé, il s'est pendu. Ses entrailles se sont répandues par le milieu. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé à ce moment-là, est-ce qu'il a été pendu et qu'il est tombé. Pierre, quant à lui, après avoir amèrement pleuré, est resté attaché aux disciples. Et finalement, il a expérimenté la restauration de son maître. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette restauration. Ce n'est pas le but ce soir. Oui, sa foi est tombée en défaillance. Mais Christ, ayant prié efficacement pour lui, il est efficacement revenu. Chers amis, ce que je vous dis là est une vérité fondamentale des Écritures. La prière de Christ est une prière particulière. Il ne prie pas pour tout le monde. Jésus ne prie pas pour tout le monde. Et si vous avez un doute, ouvrez votre Bible dans Jean 17. Il ne prie que pour ses disciples immédiats. Laissez-moi vous lire Jean 17 à partir du verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je te prie. Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés et qui sont à toi. Je ne te prie pas pour le monde. Non, chers amis, ce n'est pas le monde des bisounours. Jésus ne prie pas pour tout le monde. Mais nous faisons, nous aussi, partie de ceux qui ont été donnés par le Père à Jésus. Si aujourd'hui vous pouvez reconnaître que vous êtes avec Jésus-Christ. Regardez le verset 20 de Jean 17. Ce n'est pas seulement pour eux, les disciples, que je te prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous et que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, toi en moi. Voici la promesse si nous croyons. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Jésus prie-t-il pour toi? Es-tu à lui? Es-tu venu à lui? Peut-être que là vous vous dites, mais c'est dingue quoi. Ça fait 2 jours, il ne nous parle que d'élection, mais et si je n'étais pas élu? Et si j'étais en dehors du plan de Dieu finalement? Et si j'étais perdu? Et si Dieu ne m'avait pas choisi? Mes chers amis, ne comprenez-vous pas que 100% des élus viennent? C'est pas comme au loto, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Vous connaissez la chanson? Ça, c'est une phrase d'enfumerie, pour te faire jouer. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ceux qui ne viennent pas à Christ, ceux qui refusent Christ, ceux qui s'opposent à Christ, c'est eux qui ne sont pas élus. Mais viens à lui maintenant. Si tu as le moindre doute sur ton élection, laisse-toi affermir par lui. Dépose les armes devant lui. Plie le genou devant lui. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Crie-lui. Je n'ai aucune foi. Secours-moi. Si tu ne viens pas, je ne serai pas persévérant. Et si tu ne pries pas pour moi, je vais défaillir. J'ai besoin que tu pries pour moi. Crie cela à Dieu. Parce que si tu cries cela à Dieu, c'est la preuve de ton élection. Et tu l'affermiras certainement. Parfois, on essaye simplement de connaître les secrets de la volonté cachée de Dieu et on n'essaye même pas de se conformer à sa vérité révélée. On est en train de chercher, mais est-ce que j'ai été élu, Seigneur? Et on ne se demande pas si à un moment donné, je ne devrais peut-être pas plutôt penser à obéir et que mes raisonnements se portent vers l'obéissance à la parole, plutôt que de savoir si j'appartiens à telle ou telle disposition secrète de Dieu. Mais laisse-moi te dire une chose, l'élection, elle est partout dans les Écritures. Et je viens de te lire ce soir un passage on ne peut plus explicite qui te montre que Christ ne prie pas pour tout le monde, mais seulement pour ceux que le Père lui a donnés dans cette alliance de rédemption éternelle. Tu as le moindre doute là-dessus? Ça veut dire que tu as un doute sur ton avenir éternel. Crie à lui. Dis-lui, sauve-moi, prends-moi avec toi. Je ne peux pas accepter l'idée de passer l'éternité loin de toi. Es-tu à lui ce soir? Lui appartiens-tu? Lui as-tu donné ta vie tout entière? As-tu accepté de le suivre jusqu'au bout? Est-ce que tu es venu jusqu'au pied de la croix pour qu'il porte et qu'il prenne tes péchés? Si oui, n'en aie aucun doute, mon ami. Christ prie pour toi et compte sur lui pour que ta foi ne défaille pas. C'est le seul moyen de persévérer jusqu'à la fin dans cette foi que Dieu lui-même t'a donnée. Prions. Seigneur éternel, ces vérités fondamentales des Écritures nous troublent dans un sens, parce que nous ne voulons pas accepter que quoi que ce soit puisse se passer en dehors de notre contrôle. Que quoi que ce soit puisse être exercé sans que nous n'ayons quelque part la main dessus. Mais nous apprenons ce soir que nous n'avons pas la main sur notre foi, pas la main sur notre régénération, pas la main sur notre salut éternel, de sorte que si tu n'étais pas là pour nous préserver, ô frère, ô Jésus-Christ, nous défaillerions certainement. Mais tu es notre frère. Tu as donné ta vie pour des gens qui ne le méritaient pas. Tu n'as pas eu honte de les appeler frères. Tu les as fait rentrer avec toi dans le royaume de ton amour. Tu nous as assis avec toi dans les lieux célestes. Nous sommes ressuscités en toi selon ta parole et selon ta promesse, Seigneur. Et tu pries pour nous. Quel privilège de savoir que dans son trône de sainteté, tu t'abaisses jusqu'à nous pour nous sauver et tu acquériras notre persévérance, tu nous préserveras tout de suite jusqu'à la fin, tu nous affermiras jusqu'au bout, telle est la promesse que tu fais aux Corinthiens. À combien plus forte raison tu l'as fait à nous qui sommes là aujourd'hui, Seigneur. Je vais te prier ce soir en ayant une pensée particulière pour ceux qui souffrent et ceux qui doutent, qui n'expriment pas forcément à haute voix leurs difficultés dans la vie chrétienne. Leur souffrance, peut-être le sentiment de ne pas avoir accompli tous leurs devoirs envers toi, peut-être le questionnement, est-ce que je suis vraiment né de nouveau finalement? Quelle est la valeur de mon expérience? Est-ce que vraiment j'ai fait une expérience de régénération? Je te prie pour tous ceux qui doutent, Seigneur. Je te prie pour eux, afin que tu les consoles et que tu les restaures, et que ce soir ils puissent venir à toi pour obtenir leur réconfort, celui que tu as promis pour celui qui s'approche de toi. Je te prie pour ceux qui ce soir ont peut-être entendu parler de l'Évangile pendant très longtemps. Je te prie pour eux, Seigneur, ceux qui n'ont pas encore fait ce pas de se tourner vers toi. Oh, je te prie pour que ce soir, ils puissent comprendre quelle grande grâce est attachée à ton appel et qu'ils puissent saisir la rémunération que tu promets à ceux qui croient et à ceux qui viennent à toi. Et j'aimerais vous inviter, chers amis, qui êtes devant moi ce soir, à considérer attentivement l'appel de Jésus-Christ, qui vous dit ce soir d'une manière générale et globale, « Viens, Christ vous dit viens ». Et Seigneur, je te prie pour que tous ceux qui entendent cet appel ce soir se lèvent et se tournent vers toi pour être sauvés en vérité, avec puissance, parce que c'est toi qui le fais de A jusqu'à Z, et pas à moi, Seigneur. Non point à nous, Seigneur, non point à nous, mais à ton nom donne gloire, et tu es glorifié quand tu sauves, parce que c'est toi qui fais le job. Que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne. Amen.